hommage à Superman.
Je suis Superman, le plus fort, le plus grand et le plus beau.
Superman, mon chat est coincé dans cet arbre.
Et voilà, juste un jeu d'enfant pour moi, Superman.
Horreur, mon pot de cornichon refuse de s'ouvrir.
Et hop là! Voilà, monsieur. Vous pouvez continuer à vous empiffrer. Grâce à moi, Superman.
Ah! Des horribles musclés tentent de prendre ma sacoche!
Et voilà le travail! Je suis Superman.
Superman, je viens d'accoucher. Et je crois que c'est toi le père.
Regardez là-bas!
C'est un oiseau? C'est un avion?
Non, non, c'est Superman!
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55.
Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bon fin d'après-midi, chers auditeurs et auditrices, c'est CKIA. Bon retour à la maison. Et tout juste passé 17h en ce lundi 23 février 2009. Vincent Langlois au micro, je vous souhaite la bienvenue à votre magazine hebdomadaire sur le monde musique. Puissance maximale. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de nos collaborateurs habituels, François Gécouillard.
Salut Vincent.
Salut François. Il y a également Guillaume Forand.
Salut tout le monde.
À la console aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'avoir Anne Pelletier avec nous.
Salut tout le monde.
Et voilà. Aujourd'hui, une émission bien remplie. Petit tour de table, comme à l'habitude, pour débuter l'émission. François?
On va avoir un petit tour de l'actualité ludique et on va avoir aussi une entrevue avec Émile Morin du Mois Multi.
Le Mois Multi, excellent. On va voir ça un petit peu plus tard. De mon côté, en fin d'émission, je vous reviendrai sur quelques nouvelles également du monde ludique, plus du côté des jeux vidéo. Et on aura également Mathieu Place qui sera avec nous aujourd'hui pour la chronique rétro. Alors, tout juste avant de faire l'actualité, on va passer en musique de ton côté, Guillaume.
Oui, donc on va commencer avec la pièce de Musax, qui est toujours la première pièce, et il va vous introduire lui-même, bien sûr, sa chanson. Une chanson, bien sûr, que tout le monde va pas reconnaître s'ils sont des vrais amateurs
de jeux,
totalement. Donc, Musax, dans quelques secondes.
Et n'oubliez pas que vous pouvez aller sur musax.info pour plus d'informations.
Evil est un des tout premiers jeux dits de Survival Horror. Le joueur incarne un des membres de l'équipe Bravo des Stars, une unité d'élite. Plongé dans un univers peuplé de morts-vivants, le joueur devra élucider bien des mystères afin de sortir vivant d'un manoir sordide et oppressant.
Jaune Jaune aussi écoute Puissance Maximale.
Notre ami Jaune Jaune, toujours aussi agressant pour nos oreilles. Et on va commencer avec un petit tour de du monde ludique, l'actualité ludique. On va avoir quelques nouvelles chacun de notre côté. François, on commence avec toi.
Donc, bravo à Olivier Lamontagne. Donc, c'est un créateur québécois qui a inventé le jeu, qui s'est fait éditer son jeu Miss Poutine.
Hein, un jeu le fameux Miss Poutine, oui.
Oui, donc j'avais couvert ce jeu-là. J'avais joué à la démo du jeu à Granby l'année passée. D'ailleurs, on a une entrevue à ce sujet-là. À l'époque, le jeu s'appelait Boom Patate. Mais là, finalement, son jeu est édité. Il est deux fois plus beau que jamais. Et il s'appelle Miss Poutine. Donc, bravo à Olivier Lamontagne.
Est-ce qu'on sait que c'est édité par une compagnie européenne?
C'est Scorpion Masqué.
Scorpion Masqué. Donc, super. De mon côté, petit côté jeu vidéo, Grand Theft Auto 4, vous vous souvenez de ça? Eh bien, la semaine dernière, pour ceux qui ne savaient pas encore, ceux qui n'ont pas ouvert leur Xbox 360, ben le fameux Expansion Pack, là, l'expansion, qui avait été annoncé depuis le début avec le Grand Theft Auto, que Xbox allait avoir des exclusivités, eh bien, c'est sorti, c'est Lost and Damned. Donc, c'est la première expansion, comme je disais, qui est arrivée. On y incarne le personnage d'un membre d'une gang de motards, et on doit remplir à la sauce de Grand Theft Auto différentes missions, et si vous êtes intéressé de l'avoir, ben vous allez sur le Xbox Live, c'est environ 25$ que ça coûte.
Donc, moi, de mon côté, j'ai une petite nouvelle moins nouveau pour les gens qui sont au courant, bien sûr. Guitar Hero va avoir une nouvelle expansion qui va sortir, qui va s'appeler Guitar Hero Greatest Hits. Donc, on regroupe les meilleurs succès du Guitar Hero 1, 2, 3 et Aerosmith, qui vont faire une compilation et qui va être compatible avec le World Tour, donc avec les tracks pour jouer de la bass, pour jouer du drum, et aussi pour la voix, donc plusieurs chansons supplémentaires pour les gens qui sont intéressés à ça.
Et est-ce qu'on va avoir des modifications sur les instruments, là? Tu parlais tantôt de pédales, un truc comme ça?
Ça, c'est pour un autre jeu. Okay. Dans le fond, c'est Guitar Hero Metallica, qui s'en vient bientôt, qu'on a déjà couvert ici. Par contre, il va y avoir un kit pour un mode qui est plus élevé que le mode expert, qui va permettre de pouvoir jouer avec deux pédales en même temps. Donc, pour vraiment les maniaques de drum qui trouvaient qu'à expert, c'était pas assez, je sais pas comment vous faites, mais bon...
Moi, je pense que c'est déjà assez, personnellement. Puis, je trouve ça intéressant quand même que ça arrive sur Guitar Hero, qui a décidé de prendre les anciens disques, en fin de compte, les anciens CD qui avaient été faits pour le faire, parce que je trouvais qu'il commençait à... veut pas Rock Band, mais voir le drum qui est pas comme celui de Guitar Hero, je comprends. C'est peut-être un petit peu désuet, mais au niveau de la chanson, Rock Band, il rock pas à peu près. Là.
Effectivement.
Guitar Hero avait un petit retard là-dessus. Là.
Et très intéressant, surtout pour les gens qui ont la Wii, puisque les chansons téléchargeables, il y en a moins déjà là en partant, c'est moins évident. Donc, ça va donner plus de choix pour les gens là, qui aiment encore ce jeu-là, donc plus de possibilités et plus d'heures à s'amuser à se péter la face encore en échouant une chanson encore et encore et encore.
Plus de rock. Sinon, il y a des chercheurs qui ont étudié les relations sociales dans EverQuest 2. Donc, c'est un jeu massivement jouable en ligne. Un vieux de la vieille, si on peut dire. Donc, c'est un peu dans la même catégorie que World of Warcraft. Donc, il y a des chercheurs qui ont étudié les server logs du EverQuest 2 et avec l'accord de Sony. Et ils ont étudié comme ça 60 terabytes de server logs. Donc ça, c'est toutes les activités que les joueurs dans le jeu ont fait pendant 4 ans. Donc on parle de 400 joueurs d'EverQuest 2. Et les résultats de l'étude qui a été sortie au public est d'une précision inégalée jusqu'à maintenant. Et donc un des objectifs de Puissance Maximale, c'est de briser les idées reçues par rapport aux joueurs. Et les résultats des études montrent que l'âge moyen des joueurs est de 31 ans. Donc, assez âgé quand même. Et on dit même que les joueurs plus âgés ont tendance à jouer plus que les jeunes. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que les jeunes ont plus le temps de jouer, qu'ils vont juste à l'école, puis ils travaillent pas. Donc, ils peuvent jouer plus que les personnes plus âgées. Et alors, ce n'est pas vrai. Et aussi, une autre chose qui a été révélée, c'est que les femmes, qui sont pourtant moins nombreuses dans les MMO, ils sont plus enclines à éviter les interactions sociales. Je sais pas pourquoi. Donc, ils s'évitent entre eux. Ils font moins d'interactions sociales.
Je crois savoir pourquoi à ce moment-là. Parce que les filles qui se montrent, donc qui se déclarent étant des filles sur ces jeux-là, surtout au début, les gars leur couraient après. Ils les laissaient pas tranquilles. Donc, les filles ont tendance à moins se dévoiler pour pouvoir jouer au jeu et non se faire... cruisé par l'enfant.
Ah ouais, il y a de la grosse cruise sur les MMO.
Au début, il y en avait beaucoup. Il nomme moins parce qu'il y a de plus en plus de filles qui jouent, mais au début, c'était un
fait. Ça va être vraiment intéressant là, quand t'es un gars de Québec qui fait la cruise avec une fille qui est à San Francisco ou.
Les hommes à la maison, faut faire attention à ça, faut être galant avec les femmes sur Internet.
C'est quoi cette affaire-là?
sinon, c'est ça. Et puis finalement, aussi, l'étude a révélé que les joueurs étaient plus en santé que la moyenne des États-Unis, étaient légèrement plus déprimés, mais aussi moins anxieux. Donc, sinon, quelque chose d'autre? Lire dans les pensées, c'est désormais possible. Eh oui.
Comment? Moi, je le fais déjà.
Ah oui?
Et oui, moi, comme... oui, j'ai le talent de lire dans les pensées. Plusieurs personnes ne me croient pas, mais je peux le faire. J'ai des témoins qui nous écoutent présentement.
Ah oui?
Oui.
Ah, ils appelleront tout à l'heure pour... peut-être justement pour savoir la réponse au quiz qu'on va faire tout à l'heure.
On verra, oui.
Si c'est vrai, ben, coudonc, ils pourront dire la réponse. Sinon, il y a eu... donc, c'est ça, c'est des chercheurs de l'Université de Toronto, donc au Canada, qui ont utilisé un système de lumière qui est projeté sur le cerveau des gens. Et grâce à ça, ils pouvaient deviner quel breuvage les sujets allaient boire. Donc, il y avait des gens qui avaient, mettons, du Coke et du Pepsi devant eux. Et là, avec la lumière qui était projetée sur leur cerveau, ils pouvaient deviner lequel que la personne allait préférer entre le Coke et le Pepsi. Et ça a marché à 80% du temps.
C'est quand même assez élevé.
Donc, on parle de lire dans les pensées, c'est un truc qui est réservé souvent à la science-fiction, mais là, désormais, c'est possible.
Ils ont fait le test sur 5 personnes et il y en a 4, ça a réussi.
Non, il y a plusieurs personnes, je pourrais pas dire malheureusement combien exactement.
Mais c'est quand même assez impressionnant, 80% de réussite, là, c'est élevé à ce niveau-là. Là.
Et les ingénieurs biomédicaux prédisent qu'avec ça, ben, les gens qui sont muets vont pouvoir communiquer, donc peut-être beaucoup de choses qui s'en viennent pour les personnes handicapées. Sinon, il y a la réalité virtuelle à la rescousse de la psychologie. Donc, on sait que si vous écoutez Puissance Maximale régulièrement, vous savez que les jeux vidéo, ça peut être bénéfique pour la santé. Et bien, encore une fois, c'est possible de guérir des phobies avec la magie du 3D. Donc, il suffit de reproduire, mettons, vous avez la phobie des araignées. Et bien, on reproduit une araignée en réalité virtuelle et ça fait le même effet qu'une vraie araignée.
Comme celle sur la table ici, là.
Ça coûte combien, ça?
Combien ça coûte?
Ouais, ça a l'air intéressant.
Ça coûte très, très cher. C'est ça le problème avec cette technologie-là. C'est ce qui fait que ça sera pas implanté avant un bon bout de temps. C'est que c'est très dispendieux. Mais, vraisemblablement, c'est très efficace. Même que 80% des... Encore une fois, 80%, c'est le chiffre magique aujourd'hui. Donc, les sujets traités à 80% étaient guéris grâce à la cyberpsychologie. Et ils envisagent d'utiliser cette technique-là pour traiter les soldats de retour d'Afghanistan, les stress post-traumatiques, tout ça. Donc, ça peut les aider peut-être à vaincre leur phobie.
Incroyable ce que la technologie peut faire de nos jours. Alors, ça fait le tour de l'actualité pour le moment. On va revenir dans quelques instants également avec un petit peu d'actualité du monde du jeu vidéo. Et on va passer en musique de ton côté, Guillaume.
Oui, pour tous ceux qui veulent devenir des chevaliers et combattre des dragons, un vieux classique de Jacques Brel qui est Don Quichotte.
Don Quichotte à puissance maximale.
Sur les ondes de Sécaïa.
Tentez de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant. Et jaillir dans le monde pour en redresser tout l'effort. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un poreux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable monde, c'en est trop, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable monde. Écoute-moi, un chevalier te défie. Oui, c'est moi, Don Quixote, seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, Don Quixote sans peur, une fente de l'histoire chante en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire.
Et moi, je suis Sancho, 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 son valet, son fils, son frère, Sancho, son seul amigo, son seul suivant, mais pour toujours. Et j'en suis fier.
Regardez-moi, vous les dragons, les sorciers, les sorcières, votre règne se meurt aujourd'hui. Regardez-moi, la vertu se lampe dans ma bannière. Regardez-moi,
chevalier, vous défie. Oui, c'est moi, l'ange écossais, seigneur de la Manche, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, l'ange écossais sans peur, et le vent de l'histoire chante en moi.
Et j'en suis fier.
Qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire. Ouais!
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Notre ami Frodon, qui est venu faire un tour il y a quelque temps de cela dans le studio pour enregistrer ce petit jingle. Alors, on va passer avec de l'actualité du monde du jeu vidéo. Moi, j'ai fait un petit peu de recherche en fin de semaine là-dessus, parce que je me tiens au courant un peu de ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo.
Et qu'as-tu de déniché, mon cher
Vincent? Imaginez-vous donc que la seule chose dont on entend parler cette semaine, c'est l'arrivée de Killzone 2. Killzone, ce fameux jeu.
C'est un 3D shooter.
C'est un jeu de tir à la première personne, qui m'a l'air quand même des images que j'ai vues quand même assez impressionnantes par rapport à ce qui avait été fait avec le premier Killzone en 2004, qui était sorti sur le PlayStation 2. Comme on disait, bien sûr, c'est le jeu qui est développé par Guerrilla. Guerrilla qui est une compagnie qui est affiliée avec Sony, au niveau de l'Europe, là, fameux Sony Computer Entertainment, là, qu'on a en Amérique, mais on a aussi en Europe, donc sont affiliés avec en Europe, et c'est eux qui ont édité le jeu même sur Sony. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que Sony a édité là, depuis quelque temps, là, ils ont quand même édité de très bons titres, du style God of War, les séries SOCOM, Ratchet & Clank, pour ceux qui aiment ça, les jeux de plateforme, Wipeout, Warrock,
des valeurs
quand même assez impressionnant. Puis Killzone, ben imaginez-vous que la semaine dernière, du GameTrailer.com, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, c'est un site internet sur lequel justement on peut voir tous les fameux vidéos des prochains jeux qui sont à venir ou des jeux qui sont passés, bien, ils ont reçu le Game Trailers Diamond Award pour avoir dépassé les 10 millions de visionnements pour la bande-annonce de ce jeu-là.
10 millions, c'est juste gigantesque.
Ah, yeah, c'est assez incroyable de voir ça.
Voir,
10 millions, oui, je suis allé voir, puis c'est quand même assez impressionnant. Il y en a plusieurs qui sont disponibles, là. Graphiquement, moi, je suis impressionné, mais j'attends toujours de voir, soit de l'avoir en main puis de le tester moi-même, ou de voir une vidéo, mais ce qu'on appelle une vidéo de jouabilité, de gameplay, là, tu sais, dans le sens que tu vois vraiment le jeu qui se passe, et non seulement une animation.
C'est ça, parce que l'animation, c'est pas fidèle au jeu, nécessairement.
Ben non, les animations, parfois, sont tellement excellentes, mais quand tu arrives dans le jeu, c'est OK, ouais, c'est un peu ordinaire, là. On en a vu beaucoup de jeux qui sont comme ça. Même, il y a beaucoup de jeux de Wii, par exemple, qui sont animés incroyablement, mais une fois que tu rentres dans le jeu, bon, OK, on sait la capacité maximale. La Wii, le niveau graphique, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même assez impressionnant tout ce qui entoure Killzone 2 ces temps-ci. J'espère que ça va être un excellent jeu, parce que si on compare avec Killzone 1, c'était pas vraiment quelque chose qui avait été très bon. Même que Killzone 2, c'était le running gag. Ça fait longtemps que depuis Sony, on sortit la PlayStation 3, ils disent on va sortir Killzone 2.
Okay.
Puis de la part des détracteurs de Sony, et même des concurrents, c'était le running gag. On riait de ça dans des chansons sur Internet.
La chose que ça arrivait jamais.
Mais ça arrivait jamais, puis de mentionner que, hey, la PlayStation 3 arrive, puis attention, Killzone 2 arrive,
alors que Killzone 1 n'avait pas pogné,
ça avait tout juste passé la barre des 7 sur 10 au niveau de la critique. C'était pas si mauvais que ça quand même, Killzone, là, le premier. C'est juste que, bon, au niveau de il y avait quelques bugs sonores, quelques bugs graphiques. Tu sais, me semble que quand tu joues un first-person shooter, c'est intéressant d'avoir de la continuité puis des choses comme ça.
On a-tu une date d'annoncer pour le jeu?
Ben, Killzone sort cette semaine, le 27.
Cette semaine?
Le 27 février. Alors, c'est ça, là, il y a un gros buzz là-dessus depuis une semaine, deux semaines, même qu'on en entend parler. Là, c'est incroyable sur Internet, là. Les préventes, là, ça monte, les gens veulent l'acheter.
Ben oui,
les fameux kits spéciaux, là, tu sais, la boîte dorée ou des choses comme ça. Tout est là.
Mais
donc,
c'est quoi exactement Killzone? C'est l'histoire derrière ce jeu-là?
Ce que j'ai vu du deuxième, là, ça va faire suite au premier. Oui, c'est dans un monde de science-fiction.
Okay.
Et ça a l'air beaucoup plus, En tout cas, ça a l'air de des armures un peu à la Fallout 3, s'il y en a qui l'ont vu, là. Beaucoup plus robotique que d'autres choses.
Cyberpunk, c'est qu'on pourrait dire.
Ouais, c'est ça. Mais, bon, j'ai pas vu non plus le total du jeu mais c'est un environnement de science-fiction. Certainement. Donc, oui, les joueurs sont prêts. Les précommandes, ça arrête pas. Les critiques qui l'ont testé ont donné la majorité au-dessus de 9 sur 10, là, tu sais, des 9.1, des 9.3, des 9.4.
C'est quand même assez élevé.
Donc, c'est très élevé. Ça veut dire que les attentes du jeu, ben, elles vont sûrement être là, quand on va l'avoir. Moi, j'ai bien hâte de l'avoir. Je vais essayer de l'avoir dans les mains la semaine prochaine pour qu'on puisse en parler prochainement à l'émission. Donc, Killzone, si vous voulez l'avoir en vente dès le 27 février. Également, il y a quelques jours, puis en fin de compte, on a eu une belle petite chanson de ça en début d'émission, Resident Evil. J'avais parlé de ça il y a quelques semaines, que Resident Evil 5 sort le 13 mars. Et en fin de compte, ça, c'est la 13e année cette année, c'est le 13e anniversaire de la série de Resident Evil de Capcom. Et c'est Resident Evil 5, moi j'avais dit aux gens, allez voir le démo. On avait parlé que le démo de Resident Evil sortait sur la Xbox 360 avant le PS3. Bon, il y avait des petites affaires, des petites ententes entre Microsoft puis la gang de Resident Evil. Moi, je suis allé le downloader sur la Xbox, là, puis j'ai été vraiment impressionné. Là. Je l'ai sur la Xbox et j'imagine qu'est-ce que ça pourra être sur la PlayStation 3 avec le disque Blu-ray et tout ce qui peut rentrer là-dedans. Là. J'ai été impressionné par le démo. Ça va être un jeu à acheter.
J'ai pas joué au démo. Par contre, j'ai des collègues de travail, j'en ai 4 qui ont essayé le démo, et les 4 avaient juste des bons commentaires pour propos du jeu. Les critiques semblaient être moins bonnes, mais eux, après avoir joué à la démo, ils disaient, les critiques savent pas qu'est-ce qu'ils disent.
Ben, moi, ce que j'ai vu, finalement, là, c'est impressionnant. Premièrement, quand t'arrives dans le démo, tu peux jouer en solo, mais c'est quand même un jeu co-op, là. Il y a quand même deux personnages qui jouent toujours en même temps. Mais en étant solo, bon, ben, il y a le AI, en fin de compte, l'ordinateur qui joue avec toi. Mais tu peux jouer offline, donc hors ligne, avec deux personnes à la maison, ou en ligne avec des gens aussi, là, toujours deux à deux. C'est ce qui est quand même impressionnant. Il y a eu d'autres Resident Evil dans lesquels on avait des personnages qui jouaient ensemble, comme dans Resident Evil Zero. Mais dans celui-là, là, ça va être vraiment, on va pouvoir faire la campagne avec des gens, des amis qui sont à la maison de leur côté, toi à la maison ici. Et bon, c'est...
On voit une espèce de retour au jeu coopératif. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est disparu avec le temps, mais qui a toujours été un peu, peut-être plus présent dans les jeux PC, je sais pas.
Oui, ben moi en tout cas c'est quelque chose que je découvre parce que je suis beaucoup plus au niveau du compétitif quand je joue en ligne, mais avec le coopératif là, j'ai joué dernièrement encore à Army of Two qui est un jeu qui est sorti il y a quand même quelques mois de cela, avec quand même des bonnes copies, c'est un jeu qui était fait à Montréal par EA, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Puis juste de le jouer en coopératif avec quelqu'un qui est à la maison, moi à la maison. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire là, comme feeling, comme sensation. Il me semble que ça te permet de passer le jeu. Tu sais, à un moment donné, il y a toujours des passes dans le jeu. C'est que tu les reprends à peu près 10, 20, 30 fois. Puis tu dis, bon, j'arrête. Mais il me semble que c'est plus facile quand tu arrives avec un coéquipier à ce niveau-là. Mais en tout cas, Resident Evil, je vous le dis, là, pour le Horror Survival, là, moi, ça a toujours été justement la valeur sûre. Les graphiques sont impeccables de ce que j'ai vu quand je l'ai joué. Bien sûr, il y avait un petit peu d'animation aussi, mais du jeu, là, c'est incroyable. On a deux épisodes qu'on peut jouer sur le démo, là. L'épisode de Public Assembly, l'assemblée publique dans laquelle ça commence, là. T'as mise à mort d'un homme, toi t'es là, puis tu sais pas trop ce qui se passe. C'est en Afrique, là, puis c'est vraiment, là, quelque chose de gros, là. Le monde, ça crie, puis t'es témoin de la mise à mort de cet homme-là, puis là tout le monde te voit avec ta coéquipière, puis là il commence à te courir après. Fait que là c'est vraiment là, c'est pas seulement rien, ben, en tout cas de ce que j'ai vu à date, c'était pas seulement on rentre dans la mansion puis on enquête, là c'était comme on doit se sauver là, okay. Tout le monde veut notre peau.
Ah, c'est
vraiment là quelque chose d'assez extraordinaire. C'est graphiquement impeccable comme je vous le disais. Un petit peu plus de facilité, j'ai trouvé qu'il y avait plus de facilité pour aller dans les menus. Je sais pas si vous saviez, je sais pas si vous avez déjà joué à Resident Evil, mais quand il faut que tu changes d'arme, là, fallait que tu payes sur Select ou Start, puis là, tu allais dans le menu. Là, maintenant, tu payes sur la Xbox, c'était le bouton Y, qui est un bouton directement sur la manette, un bouton facile à trouver. Et bon, on peut changer d'arme assez rapidement, des choses comme ça. Donc, c'est quand même très bien fait comme jeu. Moi, j'ai bien hâte de le voir, puis j'ai bien hâte de le tester, parce que je pense que ça va être encore un jeu à recommander.
Est-ce qu'elle va sortir pour la Wii?
Et j'ai pas encore de nouvelles pour la Wii. Moi, c'est certain que présentement, ce qui est disponible, c'est Resident Evil sur la PS3 et sur la Xbox 360.
Pour la Wii, si je ne me trompe pas, ils vont la sortir, mais elle va venir plus tard. Donc, ça sera pas tout de suite. Il va y avoir un retard avant qu'elle sorte dessus, selon les commentaires que j'ai.
Mais c'est certain que c'est le fun pour les amateurs, les propriétaires de Wii, de dire, je peux jouer, tout ça. Quand j'ai rejoué aux démos la semaine passée de Resident Evil 5, j'ai dit, il faut que je retourne sur mon Resident Evil 4. Je suis allé sur la Wii, j'ai mon Resident Evil sur la Wii. Et quand je l'ai mis à l'écran, ça l'a comme fait, il y a une petite génération qui est passée déjà, là. C'était pas graphiquement impeccable, là. Surtout que, j'ai un écran HD. Peut-être que si je l'avais laissé sur mon petit écran, ça aurait peut-être été quand même mieux. J'étais un peu déçu de mon Resident Evil 4 sur la Wii, mais bon. La Wii reste quand même une console assez incroyable. Toujours le fun à jouer, malgré le fait que la mienne, elle ne roule pas très beaucoup ces temps-ci.
Bon.
Et juste pour terminer, je sais pas si vous étiez des amateurs de lutte, vous, quand vous étiez jeune. Oh! On a un amateur à l'autre bord de la table.
Eh bien,
imaginez-vous que le 24 mars prochain, il y aura un jeu pour les amateurs de lutte qui sortira.
Punch-Out 3!
Et non! Le WWE Legends of WrestleMania.
Ah,
Vous savez ce que c'est, WrestleMania?
Ah, oui.
C'est l'événement de l'année à la lutte, là, vraiment, où tous les grands lutteurs se rencontrent dans un stade immense. Moi, j'ai participé à ça, WrestleMania. Je suis allé une fois à Toronto. Oui, à Toronto en 2002.
L'ambiance est quand même quelque chose.
C'était le retour de Hulk Hogan. Et, bon.
Ça, c'est vraiment très geek, là. Excuse-moi, faut que je le dise, là. La lutte, là, en tant que telle, là, c'est...
Mais ça, c'est un historique là-dedans, hein. Tu sais, quand on est amateur de lutte, c'est parce que on allait manger chez nos grands-parents la fin de semaine, le dimanche. Puis la lutte passait à 10h, 11h. Puis on s'assoyait, puis on regardait ça avec eux autres. Puis on a commencé. Moi, c'est comme ça que ça a commencé. Sans ça, mes parents nullement ne regardaient la lutte, là. C'est parce que je regardais ça avec ma grand-mère, mon grand-père, sans ça. Mais bon, ça a passé aussi, là. Je regarde plus vraiment ça. Mais, juste pour vous dire que ça sort bientôt. Si vous êtes intéressé, ça a l'air d'être un jeu quand même. J'ai jamais été un amateur de jeux de lutte au niveau de jeux vidéo.
Ah ouais?
Jamais.
Pourtant, c'est des bons jeux d'habitude, hein.
Moi, j'ai de la misère avec les prises, tout ça. Tu sais, ça me semble que c'est impossible, là. Ils te font toucher trois
fois. Sur n'importe quel bouton, puis ça marche.
Ben, c'est ça, l'affaire. Moi, me semble, ça serait le fun de le savoir comme il faut, puis de le faire comme il faut. Mais bon. Si vous êtes intéressé au jeu, juste pour vous dire quelques noms de lutteurs qui seront là, vraiment, là, la liste est assez impressionnante. Andre the Giant, Bam Bam Bigelow, Big Boss Man, Big John Studd, il y aura Bret Hart, Brutus the Barber Beefcake, Hulk Hogan sera là, bien sûr, Honky Tonk Man, Jake the Snake Roberts, regardez là, c'est incroyable,
c'est
Coco Beware,
les films devant moi.
Kamala, là, je vous dis, là, ça va
Guillaume
faire fureur.
Guillaume est ému.
Ça va faire fureur, ce jeu-là. Et là, The Rock est là, c'est dans les plus récents des lutteurs. Ultimate Warrior, Yokozuna, Undertaker, Shawn Michaels. Et ils ont tous leur entrée spéciale avec leur chanson, leur musique.
Leur danse spéciale.
La danse spéciale, tout ça. Donc, j'imagine que Coco Beware va arriver sur Piledriver avec son petit ami Frankie, le perroquet qu'il avait sur le bras.
Ooh.
Et regardez, ça va être vraiment, vraiment assez impressionnant, d'après moi.
Super.
Alors, ça met fin au petit côté jeu vidéo et on va passer à...
Au tirage!
Le tirage!
Et oui, donc on va faire tirer Ghost Stories. C'est ça? Ghost Stories?
Je crois que c'est ça.
Oui, Black Stories.
Black Stories, on s'est trompé, mais c'est pas grave.
Donc, Black Stories, qui est un jeu qui se joue de 3 à 28. Ça ne dérange pas, il n'y a pas de limite à ce jeu-là. Et donc, il suffit de trouver les responsables d'un crime crapuleux ou des choses comme ça. Donc on a ce jeu de qui joue avec des cartes. C'est un gros jeu de party. Ça joue en famille, ça joue avec grand-maman, ça joue avec grand-papa. Même pas obligé de savoir lire. C'est magique. Les règles sont simples, tout ça. Donc il suffit de...
Que doit-on faire pour gagner ce jeu, François?
Excellente question, Vincent. Alors il suffit de répondre à la question suivante.
Oh, une question.
Pour les fans de film d'horreur ici. Quel est le nom de famille de Jason? On s'entend, le méchant à la machette qui tue tout le monde.
Oh, Jason dans Friday the 13th.
Donc, le posant, l'ennemi juré de Freddy. Hein, Freddy, lui, il parle beaucoup. Jason ne parle jamais. Il ne fait que tuser. Et de façon aussi assez poche. D'habitude, là, il n'y a jamais trop de flafleur. Là, toujours le plus vite possible et le plus simplement possible.
Mais les gens courent quand même pour aller voir les films de Jason. Hein,
donc, quel est le nom de famille de Jason?
Oh,
parce que c'est Jason. À l'ordre d'un monstre, c'est pas seulement un monstre, c'est aussi un être humain qui a
été un être humain avant, bien sûr, oui.
Donc les gens peuvent appeler.
Oui, si vous avez la réponse à cette question, c'est le 418-529-9026, 418-529-9026, et on va passer en musique.
Oui, donc un classique de ceux qui sont plus vieux et ceux qui sont plus jeunes, allez taquiner un peu vos parents ou vos frères ou sœurs plus vieux. Une vieille chanson des années 70, Kung Fu Fighting.
À puissance maximale.
word to the crowd will make you wanna turn it out. So homies gather round,
right round.
I'll pick you up, take you on, go pound for pound. Cause I'm the only man who'll please ya. I got a little something that'll please ya. So pull those hands up high, shake your body, move from side to side. Cause we've just begun, party people in the place, yeah we're having fun. Oh yeah, I'm gonna be a big star. I'm gonna lay it on and go woo-ha. Cause when the mood gets excited,
come on,
when everybody's kung fu fighting. Come on. Fighter in a disco. He's out to take his chance. He knows the honey's in the house. Only go for romance. He's got a white suit on. 1:05 and the night has just begun. Cause when he lays it on with style, a ladies' man with a nice smile. And right before his eyes, sees a pretty young thing looking real fly. He wants to make the score, so he takes a hand and leads her to the dance floor. He's giving her line after line. She tells him that he looks real fine. Cause he's the man, perfect timing. Like when he's kung fu fighting. Come on. That's what I'm saying, while the retro disco track's playing. It's gonna make you shout, make you beg for more.
Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximal.
Oui, un petit peu de musique à travers Friedemann Friese. Et on félicite Anaïs qui a remporté le jeu. Alors, toutes nos félicitations. On va passer en entrevue, François.
Donc, le Moi Multi est une rencontre d'art multidisciplinaire qui fait beaucoup de place aux récentes avancées médiatiques et technologiques. Et on reçoit en ce moment le directeur artistique du Moi Multi 10, Émile Morin. Bonjour, Monsieur Morin.
Bonjour, messieurs.
Donc, dites-moi, là, on est une émission de jeu, là. Évidemment, donc, ce qui vous intéresse, c'est le jeu, la technologie, tout ça. Et c'est quoi le lien entre l'art et la technologie, là?
Ben, depuis 10 ans, on présente le Moi Multi là, qui est dédié à l'art multidisciplinaire, mais aussi à ce qu'on appelle l'art électronique ou l'art technologique ou l'art numérique, selon comment on veut le nommer. Et puis il y a beaucoup d'artistes qui travaillent depuis plusieurs années d'ailleurs avec ce qu'il y a tout neuf en termes de technologie, qui font leur œuvre avec ça. Et chaque année, on a quelques projets là qui sont liés étroitement à ça. Ça fait un lien très fort entre l'idée de la science, la découverte des nouveaux moyens technologiques et l'idée de l'art.
C'est ça, hein, parce que vous l'avez dit, il y a quelques trucs qui vont chercher, qui utilisent vraiment les dernières technologies. Et dans le cas actuel, dans le Moi Multi 10, là, il y a au moins deux installations, Level Head et React Table, qui sont vraiment en lien avec des jeux vidéo, là. Et comment expliquer ça que le jeu se soit immiscé là, de cette façon dans les événements d'art actuels?
Ben écoute, depuis c'est pas trop neuf, les artistes s'amusent à créer des contextes pour l'interaction avec le spectateur. On a vu ça avec les œuvres en nouvelle technologie dans les dernières années. On parle de l'art interactif. Et certains, comme bon, si on parle de Levelhead en premier lieu, qui est fait par cet artiste néo-zélandais, Julian Oliver. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il s'agit d'un cube qu'on manipule. Et
je l'ai non seulement vu, je l'ai aussi passé.
Voilà. Alors, c'est pas mal. Il y a pas grand monde qui a eu cette patience-là. Et puis, il faut passer donc dans trois cubes. Et on manipule avec nos mains un cube là, pour le décrire à tes spectateurs. Et on le voit, là, on se voit manipuler par une caméra qui est toute proche de notre main. On voit à l'écran notre main manipuler ce même cube-là sur le côté desquels il y a des codes graphiques différents. Mais quand on regarde à l'écran, le côté qui est face à la caméra et tout à coup nous laisse voir comme si on voyait à l'intérieur du cube un espace qui se découvre. Il y a un mini personnage à l'intérieur qu'on peut faire voyager par des portes qui s'ouvrent sur les côtés. En manipulant le cube, en le faisant pencher d'un côté, le personnage va se déplacer de ce côté-là.
C'est le principe qu'on appelle la réalité augmentée.
Oui, effectivement, ça s'approche de ce que des scientifiques ont commencé, puis dans les universités, on a présenté ça dans les premières fois, ce concept de réalité augmentée. C'est une transformation très immédiate, très rapide, parce que dans ce cas-ci, on manipule l'objet qu'on a dans nos mains. Notre cerveau nous dit, oui, c'est bien toi qui tiens ce cube-là, c'est toi qui le manipule. Et l'image te montre effectivement ta main en train de le manipuler, mais cet objet-là qui semblait plein, qui semblait fermé de tous ses côtés, est transformé d'une manière extrêmement réaliste, et c'est pour ça qu'on parle de réalité augmentée dans ce cas-là.
C'est ça, puis j'invite personnellement les gens à aller voir sur YouTube, là, taper « réalité augmentée », en anglais « reality augmented reality », et il y a vraiment des belles choses qui se font avec ça. Puis j'ai vu même dans le journal qu'il y a des trucs qui se faisaient pour encore la cybertechnologie, c'est la réalité augmentée. On peut aussi faire des jeux avec ça. Yeah. Là, on a parlé de Level Head, qui est une sorte de labyrinthe, mais il y a aussi React Table. Et ça, c'est vraiment de la musique. Là. On s'amuse à jouer sur une table et en fait, on joue à créer de la musique ou des sons, c'est ça?
Exactement. Il s'agit d'un nouvel instrument. On parlerait d'une nouvelle lutherie là, pour être si on était de sérieux musiciens.
La nouvelle de lutherie, c'est drôle parce que la lutherie, on pense à des violons. Tu sais.
On pense à des choses qui sont plus anciennes un peu.
Oui, bien sûr. Mais là, on parle d'une lutherie qui est associée, qui est là pour faire en sorte de créer une interface. On connaît tous les logiciels de création audio, on en a tous sur nos ordinateurs, même ceux qui en sont peu conscients. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent maintenant de faire du son à partir de nos ordi. Il y a des logiciels très particuliers que des artistes ont construits pour faire de la performance et tout ça, mais il y a encore très peu d'interfaces de contrôle de ça, comme une interface au sens d'un instrument de musique. Et tu sais, un objet qui se manipule avec le corps autrement que simplement le manipuler avec une souris. Et il y a quelques artistes qui ont fait ça, et je trouve que le projet React Table, il est magnifique comme ça. Il lie donc l'instrument numérique, l'instrumentation numérique, il y a un ordinateur avec une banque de sons, puis selon des paramètres, les sons sont modifiés, à un objet bien usuel, une table, et des objets qu'on peut déposer sur la table, qui sont connus par cette table-là, et selon comment on les tourne, selon on les manipule, selon comment on les met des relations entre eux, les sons sont modifiés. Pour moi, c'est un magnifique objet. Et la singularité aussi, on parle d'instruments, mais il est collectif aussi, celui-là. On se reconnaît très peu d'instruments qui peuvent se jouer à plusieurs.
C'est ça, il peut être deux ou six.
Pas bien, mais de piano, mais c'est assez rare. Et dans ce cas-là, on peut, et c'est un instrument de collaboration au sens musical du terme.
Et ça, est-ce que les gens peuvent jouer encore à cette espèce de jeu-là, entre parenthèses, la React Table?
Oui, écoute, c'est présenté jusqu'au 1er mars, donc jusqu'à dimanche prochain, de midi à 5h, et puis les gens peuvent venir, et puis c'est vraiment des œuvres qu'on a voulu présenter, qu'on donne accès, c'est de l'art qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler, et puis c'est ça, c'est présenté au mois de midi jusqu'à la fin.
Et ça, monsieur Morin, là, est-ce que vous vous assumez que Level Head et React Table, c'est des jeux vidéo, ou vous préférez dire que c'est des œuvres d'art?
Pour moi, c'est de l'art au départ. C'est des propositions artistiques parce qu'elles questionnent notre rapport à la création et tout ça. Mais elle emploie des chemins bien similaires. Et dans le cas de Level Head, c'est l'artiste lui-même, c'est un jeu. Ça prend la forme d'un jeu et de trajectoire. Et pour moi, il n'y a pas de mal à ça. C'est pas contradictoire non plus. Et ce qui est intéressant en art, maintenant, on voit des œuvres qui croisent d'autres territoires. Et dans ce cas-là, c'est le territoire du jeu.
Et croyez-vous qu'avec le mois multi, là, ça pourrait permettre aux autres lieux d'exposition comme plus traditionnels, comme par exemple le Musée des Beaux-Arts, est-ce que vous pensez que ça pourrait les intéresser peut-être à accueillir ce genre d'installation à l'avenir?
Oh, je suis à peu près sûr, parce qu'on a déjà des discussions avec le Musée des Beaux-Arts, ils sont extrêmement intéressés, ils collaborent déjà avec nous. C'est des choses qui arrivent. On sait qu'on est les porteurs à Québec de cet art-là. On le présente depuis 10 ans, on le présente de manière la plus ouverte sur les nouvelles choses, et puis on va continuer à le faire. Puis dans ce cas-là, bien évidemment, les lieux un peu plus, peut-être un peu plus traditionnelles, puis encore là, c'est pas méchant ce que je dis, bon, ce sont souvent ceux qui suivent ce courant-là. On sait qu'on va voir apparaître ça dans les prochaines années beaucoup plus fortement dans des lieux plus traditionnels de l'art.
Ben, Émile Morin, je vous remercie beaucoup, directeur technique du Mois Multi. Vous nous avez initié à la réalité augmentée grâce au Mois Multi. Donc, je vous remercie personnellement.
Ouais, sinon... il faut vous dire, hein, comme tu le mentionnais, il faut vraiment venir toucher ces œuvres-là et les manipuler. Et c'est là qu'on comprend qu'est-ce qui se passe.
Et les gens peuvent y aller jusqu'au 1er mars. Et pour le Level Ahead, c'est dans le hall du Mois Multi, du complexe Méduse. Donc, il suffit de rentrer et c'est à l'entrée. Pour React et Boss, c'est à quel endroit exactement?
C'est dans la salle multi, c'est à deux pas de Level Head. C'est tout dans la même zone. Il y a quelqu'un pour vous recevoir là. Ils vont vous indiquer où aller. Voilà, c'est très facile rendu là.
Très bien. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Et sinon, ben les gens, pour ce qui reste du Mois Multi, là, ça, c'est jusqu'au 1er mars. Et il va rester des cabarets audio le 28 février. C'est de la musique improvisée qui est faite en direct au restaurant Labram Martin, qui est diffusé aussi à CKIA, à notre antenne. Et sinon, il va y avoir aussi une installation qui s'appelle Corps Noir de Stéphane Gladiszewski.
Ouais, c'est un spectacle, mais c'est un magnifique spectacle d'ailleurs, il faut pas manquer ça.
Le 28 février, à 21h, ici c'est à la salle multi. Tout ça est dans exactement au même endroit que l'endroit où on diffuse, c'est CKIA. Donc merci beaucoup, M. Morin, et à la prochaine.
Au plaisir, bye.
Donc, il y a des gens aussi qui veulent en savoir plus peuvent aller sur moimulti.org. Il y a même des vidéos, des installations, le Level Head, vous pouvez voir de quoi ça a l'air, React Table, tout ça. D'ailleurs, on va écouter un extrait de quoi ça ressemble, React Table, l'espèce de table bizarre où on fait de la musique en gang.
Et vous l'aurez entendu à puissance maximale. Ouf, et on en a eu plein les oreilles, vraiment, là, ça fait mal. Moi qui ai eu mal à la tête toute la fin de semaine.
C'était React Table.
C'était quand même. Non, mais c'est ce qui, j'avoue que l'entendre, le voir et l'entendre, ça doit être assez impressionnant parce que c'est vraiment, c'est de le voir allumer tout ça sur place, mais juste l'entendre comme ça.
En fait, ça ressemble à un vieux espèce de comment je pourrais dire, un tableau de bord d'un vaisseau spatial de science-fiction des années 60 un peu, la React Table, quand on l'a vu tantôt sur les vidéos. Là.
Ben, moi, ça me rappelle Dark Side of the Moon, mais dans les interludes musicaux, là, tu sais, entre deux tunes, il y avait un petit effet spécial. Ah, là, ouais, ben, ouais. Là, on dirait que c'est tout un album d'effets spéciaux.
Je parlais de Dark Side of the Moon, mais à l'envers.
Non.
Si,
peut-être.
Et maintenant, c'est le temps de la chronique rétro avec Mathieu Place.
Alors, oui, excellent. Ça fonctionne très bien avec la musique qu'on vient d'entendre. Là, l'esprit rétro que j'essaie de vous ramener. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler du début des années 80, fin des années 70. C'était l'âge d'or de l'arcade. Alors, pour ceux qui étaient là à cette époque-là, c'était vraiment vraiment une époque particulière. Il y avait des lieux où est-ce qu'on pouvait aller jouer à des jeux d'arcade. On pouvait passer toute une soirée là, et puis bon, passer nos 25 sous. Et puis bon, il y avait le maître de l'arcade, le joueur qui était vraiment hot dans tous les jeux. Puis bon, on le regardait faire.
Les arcades ont pratiquement tous disparu à Québec.
Ben oui, hein? C'est ça. Moi, il me semble, il y en avait sur la rue Saint-Jean.
Oui, il y en avait une grosse sur la rue Saint-Jean dans le temps.
Ben c'est ça, mais ça a fermé parce que évidemment, bon ben là, les jeux vidéo dans les maisons sont rendus tellement impressionnants que c'est dur d'avoir des arcades qui sont aussi évoluées, aussi avancées, puis qui arrivent à côté les arcades qui sont dans les maisons. Il y a eu une recrudescence des arcades il y a quelques années quand on est arrivé avec les Dance Dance Revolution, ce genre de jeux-là, où est-ce qu'on était en mouvement. Les arcades ont connu un espèce de petit regain d'intérêt, mais c'est vraiment au début des années 80 qu'il y a eu l'âge d'or des arcades. Et puis bon, évidemment, je vais vous rappeler quelques jeux de cette époque-là. Il y avait trois grandes compagnies qui s'occupaient de faire des arcades. Bon, Atari, Nintendo et Namco. Namco qui avait les célèbres jeux Pac-Man, Galaxian et Dig Dug. Et puis à l'époque, c'était vraiment particulier parce que les gens connaissaient les créateurs des jeux vidéo. C'était pas toute une équipe, c'était vraiment des créateurs spécifiques qui faisaient les jeux vidéo. Le premier jeu vidéo d'arcade en tant que tel, c'est Steve Russell qui l'aurait inventé. Bon, c'est sûr que c'est controversé là, mais il a inventé le jeu qui s'appelle Space War. Il s'agissait de deux petits vaisseaux spatiaux qui devaient se combattre. Et puis bon, il y avait un trou noir qui te permettait de voyager dans l'écran, etc. C'était assez basic, mais c'était le premier jeu qui a été inventé.
D'ailleurs, les gens peuvent jouer sur puissancemaximale.com, section jeu. Là, il y a moyen de jouer sur Internet.
Ben c'est ça, exactement. Puis tu sais, ça prend tellement pas de mémoire ce genre de petit jeu là que c'est possible de jouer live sur Internet. Et puis bon, alors l'âge d'or des arcades, ce serait entre 1979 et 1983. Alors c'est dans cette période-là qu'il y a eu vraiment les arcades les plus intéressantes. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore intéressant de jouer à ces jeux-là parce que à l'époque, bon, il n'y avait pas de haute technologie en graphique, il n'y avait pas de haute technologie en son. Alors tout était mis dans le gameplay, comme on appelle la manière de jouer. Alors c'est sûr que quand le gameplay est intéressant, quand c'est le fun de jouer au jeu en tant que tel, bon, ben, on peut passer au travers des graphiques, etc. Et puis on peut apprécier le jeu quand même. Bon, c'est sûr que si vous avez été là à l'époque et puis que ça rappelle des souvenirs, que il y a un aspect nostalgique au travers de ça, c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais c'est quand même intéressant. Une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est peut-être d'investir dans ces arcades-là. Moi, j'ai regardé sur eBay aujourd'hui et puis je me suis rendu compte que des vieilles machines arcade Pac-Man, etc., c'est 2 000, 3 000 $. Bon, ça peut paraître beaucoup d'argent, mais il me semble que c'est pas tant que ça. Moi, je m'attendais à vraiment des prix astronomiques. Oui, il y en a des moins chers.
Le problème, souvent, c'est le shipping. Donc, le coût de la faire envoyer quelque part des États-Unis jusqu'ici, on double ou on triple le prix qu'on paierait pour la machine. J'ai déjà regardé pour, puis j'ai vu le shipping, j'ai fait « ouf, je rentre pas là-dedans ». Juste à cause de ça, c'était assez décourageant.
C'est ça. C'est assez décourageant de ce côté-là, c'est vrai. Mais écoutez, c'est les antiquités de demain. Hein. T'sais, si vous pouviez mettre la main sur une vieille radio là, des années 10, des années 20, avec le gros cornet, etc., vous seriez très content. Bon, ben c'est exactement l'équivalent, mais bon, ça va peut-être être précieux d'ici 50 ans. Alors, pendant 50 ans, il va falloir que vous réussissiez à convaincre votre blonde que c'est pas de la cochonnerie, mais dans 50 ans, après ça, vous allez être content de l'avoir.
Et surtout, ne pas l'user, pas ramasser la poussière dessus non plus.
C'est ça, exactement. Là, c'est sûr que c'est tentant, mais je suis convaincu que dans un party, en fin de party, ça peut être une bonne attraction pour inviter ses amis à rester un peu, là, faire une petite partie de Pac-Man comme dans le bon vieux temps. Bon, en tout cas, à suivre. Là, moi, je vais peut-être regarder quand même sur Internet. Je me suis déjà acheté le Atari, le vieux Atari début des années 80. J'ai mon vieux Nintendo, etc.
J'ai un Commodore 64 aussi.
J'ai un Commodore 64 avec les vieilles disquettes et la cassette. On avait des jeux sur des cassettes à l'époque. C'était vraiment incroyable. Fallait que tu mettes play puis que t'attendes que le jeu se load. Ça pouvait prendre des minutes et des minutes. Là,
il y avait même des livres pour comment coder ton propre jeu. Ils donnaient les instructions. Tu devais rentrer genre 1 000, 2 000 lignes de commandes sans te tromper.
C'est ça, exactement. Sans te tromper, là, c'est ça. Puis si tu te trompais, ils disaient pas où est-ce que t'avais l'erreur. Des fois oui, des fois non. Fait qu'il fallait juste que tu révises au complet. Puis les jeux étaient pas si fantastiques que ça, là, si on se rappelle. Là,
c'était genre E.T.
Ouais, c'est ça, E.T. ou
le fameux jeu où E.T. il fait rien.
Il fait rien, il tombe dans un trou, puis il reste là, puis il faut que tu le sortes du trou en volant.
Il y a vraiment vieux classiques quand même, comme des Jumpman, Jumpman Junior, au Commodore 64, j'ai passé des heures là-dessus à jouer dans le temps.
Oui, puis il y avait une version de California Games à l'époque.
Oui,
il y avait une coupe de Rambo.
Le Brise Manette.
Comment tu
le
dis?
Le brise-manette.
Le brise-manette, ouais, c'est ça. Il y avait Décathlon. Décathlon, exactement, parce qu'il fallait que tu bouges la manette le plus vite possible. C'est sûr que c'est des bons souvenirs. À un moment donné, il faudrait faire une soirée comme ça, là, avec puissance maximale.
Ouais, faisons une soirée rétro avec Mathieu Place en animation.
Et voilà.
Parfait, le spécialiste du jeu rétro. Mais merci beaucoup, Mathieu, d'être passé à l'émission. Et on va y aller en musique juste avant la fin.
Oui, donc on va mettre une petite chanson. Je vais vous laisser deviner c'est quoi avant de vous l'annoncer.
Est-ce qu'il faut deviner là, là?
Oh, c'est quand vous voulez.
Alors, moi, j'irai pour une bonne vieille chanson de Metallica, voyons. Non?
Où ça?
Il y en avait des plus hâtes, oui, une zone de retour. Imaginez-vous donc que durant la chanson, il arrive parfois que les gens parlent ici en studio et il y en avait des plus hâtes. Alors, bien, on est de retour juste avant la fin de l'émission. On va passer à l'agenda avec François.
Donc, évidemment, toi qui veux sortir, qui se demande quoi faire, eh bien, c'est simple. À tous les mardis, il y a des parties de go au Café Babylone maintenant. Avant, c'était au Café Aga. Là, ça fait à peu près 2 ans qu'on en parle. Mais là, maintenant, c'est au Café Babylone. Bon, ben, c'est à partir de 19h, vous allez là et vous allez pouvoir jouer à ce jeu antique japonais. Sinon, le même soir, il y a aussi, il y a la Ninkasi, il y a des tournois de hockey sur Wii. Donc, à la Ninkasi, donc, vous pouvez prendre une petite bière en même temps sur la rue Saint-Jean. C'est merveilleux. Sinon, jusqu'au 1er mars, évidemment, vous pouvez essayer Level Head et Reactable au cours du mois multi dans le hall de Méduse. Et ça, c'est sur la rue Saint-Vallier à Québec. Et ben sinon, ben écoutons, ce soir même, qu'est-ce qu'on fait à tous les lundis depuis des mois?
Puissance maximale à l'Abraham Martin.
Exactement.
Et nous serons là dans quelques minutes. Dès 18h, gratis. Et oui, on vous attend à l'Abraham Martin, qui est dans le complexe Méduse, tout juste entre la Côte d'Abraham et la rue Saint-Vallier, ici en bas. Et le temps de finir l'émission, remercier les gens qui ont participé à cette émission. Merci à Anne Pelletier, qui était là et nous a supportés dans le studio durant une heure. Merci à Émile Morin, qui était ici en entrevue. Merci à François G. Couillard.
Merci Vincent.
Et également Guillaume Forin.
Merci.
Mathieu Place.
Merci.
Et nous allons terminer cette émission en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne semaine. It's the end. Fighting with the legends of yore. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings.
things, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not with my girlfriend.